bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, merci de nous rejoindre avec Leïla Kadoboudadi. Daniel Morin,
bonjour Leïla.
Tom Villa, Jérémy Crédit, Tanguy Bassureau et nos invités Michel Laroche et François Berléand.
Bravo. Oh oui. Bonsoir.
Bravo Michel. Bravo.
D'avance, bravo et merci. Ça suffit François.
Le sens du rythme.
Ne vous blessez pas. À partir de demain, c'est demain en plus que ça commence. Encore un instant de Fabrice Roger Lacan, une nouvelle pièce de théâtre mise en scène par Bernard Murat. Ça se passe au Théâtre Édouard VII avec à vos côtés Lionel Belansky et Vinnie Dargo. Une pièce où vous incarnez une star, comédienne star qui se pose des questions sur va-t-elle jouer ou non une pièce qu'on vient lui proposer. Et pièce où le metteur en scène, enfin un metteur en scène, joué par François Berléand, est mort. Voilà, c'est le point de départ.
Son mari, oui.
Il n'est pas metteur en scène à la base ?
Si, il est metteur en scène et réalisateur.
Et son mari.
Et donc j'ai fait pendant des années, pendant 30 ans, des pièces avec lui et des films avec lui. Et il a eu un accident de voiture et il est mort depuis 10 mois. Et c'est pour ça que quand on vient lui proposer une pièce, elle se pose la question de la jouer ou pas, parce que c'est la première pièce qu'elle va jouer sans son mari.
Voilà, et puis elle peut communiquer, échanger avec lui, il est toujours là, il est toujours
présent.
Elle le recrée,
voilà. Elle peut pas vivre sans lui.
Ce qui n'est évidemment pas le cas de Lionel Abeansky, qui est ce metteur en scène. Tout le monde est amoureux de vous, tout le monde, le voisin, le copain.
Voilà,
c'est ça. La vie, quoi. Comme un lundi.
Oui, c'est formidable.
Oui.
Voilà, comme un lundi.
Avant de parler plus longuement de cette pièce, des questions pour savoir si vous connaissez bien Michel Laroque et François Berléand. Michel a été récemment promu au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Quelle grande personnalité prestigieuse a-t-elle choisi pour lui remettre cette médaille ?
Son compagnon ?
Non.
Drucker ?
Non.
C'est quelqu'un du théâtre ?
Oui, mais pas uniquement.
Ah, Patrick Balkany.
Non.
Une grande personnalité.
Grande personnalité.
C'est la reine mère.
Grande personnalité.
Bah ouais,
alors, c'est l'un des surnoms qu'on peut lui donner, ça dépend de
Lille Renault.
Alors, non. C'est quelqu'un qui.
Zizi Jean-Mère.
Je ne le dirai pas tout de suite, et si vous savez, ne dites rien.
C'est
une personnalité, c'est quelqu'un de.
Il était ministre.
Alors, faut dire. Extrêmement extrêmement talentueux mais pas très agréable.
François Berléand.
Exactement.
Allez là.
C'est ça. Il est du cœur, c'est formidable.
11h06, ça commence fort.
Tout le monde le sait, c'est vrai.
Non mais c'est notre blague. C'est notre blague récurrente, vous le savez, François.
Il va remettre la Légion d'honneur en m'engueulant.
François, il faudrait absolument que nous fassions une photo ou un montage, un bout à bout de nos différents invités depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on va tout dire, on se connaît dans la vie et vous non, mais moi je vous apprécie. Et donc il y a une blague. Il y a une blague récurrente dans cette émission, c'est-à-dire dès qu'on peut dire du mal de vous, on dit du mal de vous. Et ce qui est formidable, c'est que quand les invités ne savent pas que c'est une vanne, ils sont super gênés. Il y en a 2-3 qui ont dit
d'accord. Il y en a qui font oui de la tête.
J'espère bien.
Voilà, on peut faire une spéciale juillet août, tu fais une compile de toutes les
vannes. C'est tellement drôle. C'est drôle de voir la gêne parce que il n'est pas là et on dit du mal de lui, vous êtes sûr? Et oui, bon, il écoute rien, il est bourré à ce heure-là, François Berléand. Donc c'est vous.
Ce qui serait formidable, c'est que le jour de ma mort,
on en fasse autant.
Il y a un best-of de tout ce que vous avez
dit. Des horreurs.
Ouais, des horreurs.
Promis.
Et ça me ferait vraiment plaisir.
Si c'est une demande.
Non, mais franchement. Oh,
ça pourrait tenir 2 ans.
Je terminerai le truc en disant, mais.
Ouais.
C'est tout.
C'est ça.
Et en plus, ça devrait pas traîner normalement.
Bah oui, c'est pour ça.
Enfin.
Et donc, sur ma tombe, il nous a bien fait chier.
Faut se préparer là, justement.
Et donc, c'est lui qui va vous remettre la décoration.
Et oui.
Ouais.
Et oui, parce que. T'as signé.
J'ai signé.
Oui. Et donc, quand on m'a appelé pour me.
Promu chevalier de la Légion d'honneur.
Oui.
Bah oui.
Et on était en répétition, et donc j'en ai parlé à François, et je trouvais ça beau que dans ce théâtre qui est quand même le symbole d'un théâtre de qualité privée. Mon partenaire qui est le symbole de, bon, on va pas dire quoi.
La mort,
me remettent, oui, cette Légion
d'honneur. Joli. C'est d'autant plus joli qu'il n'aurait absolument pas demandé à Michel Larocque de lui remettre la Légion d'honneur.
Jamais. Il me l'a dit tout de suite.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on le fera en plein milieu de notre présentation. Alors, on arrêtera la présentation.
Pour faire.
Au milieu.
Breaking news.
Et voilà.
Très bien. François Berléand possède 5000 chez lui. De quoi s'agit-il?
Bouteille de vin.
Oh, l'image du poivre.
Bouteille.
Alors, et hier, j'ai mis une bouteille.
Livre.
DVD.
Exactement. Ouais. 5000 bouteilles. Alors, ça ne peut pas. Combien
de DVD? Des BD.
Non, des BD.
Bande
dessinée. 5000 bouteilles, c'est impossible. Il les boit. Donc, oui, il ne peut pas y en avoir.
Il peut garder les bouteilles.
Ah, j'en avais plus. J'en avais 3-4 000, mais j'ai vendu beaucoup. De toute façon, je vais mourir maintenant.
Non, mais les bandes dessinées, ça se déguste et ça se garde. Vous en avez vraiment 5000?
Ah ouais, j'en ai beaucoup.
Ouch. Est-ce que vous avez l'intégrale de... Enfin, dès que vous aimez un auteur ou son héros, vous avez l'intégrale, je ne sais pas, des Astérix, des Gaulliers, des Rubens Cabrac. Tu peux avoir un peu de tout, mais pas forcément l'intégrale.
Évidemment, oui, non, mais tout Tintin, tout Astérix, tout Blueberry.
D'ailleurs, dans la pièce, de temps en temps, il prend la voix d'un personnage de BD.
Voilà. Quel est quel a été le déclic, le premier auteur, le premier héros que vous avez?
Tintin.
C'est Tintin le premier.
Voilà, donc moi c'était très Linkler, donc c'était tous les personnages de Tintin, enfin du journal Tintin. Ouais. Et voilà, et il se trouve que moi j'étais cobaye de la méthode globale, et qu'arrivé en sixième, on s'est aperçu que je ne savais pas lire. Alors techniquement, je savais lire évidemment, mais je ne retenais rien. Et donc on m'a réappris à lire. Et c'est le médecin qui a dit qu'il faut qu'on commence par la BD.
Génial. Est-ce que la bande dessinée vous a ouvert au monde de la lecture? C'est-à-dire au plaisir aussi de lire des romans, des pièges, justement.
Évidemment, évidemment.
C'est ça.
Et puis aussi,
parce qu'il y a des parents qui continuent de penser que c'est un petit genre, la bande dessinée, et que quand il faut lire des romans. Mais commencer par la bande dessinée, c'est un formidable exemple.
Ouais, ouais, mais moi, je pense que franchement, c'est un art. Comme, comme la littérature maintenant. Ouais. Enfin, c'est un nouvel art.
Et
comme
c'est
le cinéma,
reconnu. Ouais,
c'est le 8e. D'ailleurs, je crois qu'on
continue
comme ça.
Absolument. Quelle passion un peu casse-cou Michel Larocque a-t-elle découverte récemment?
La moto.
Non. Quand je dis récemment, c'est deux.
Toujours cette voix-là quand
le
tu
surf,
dis
la moto.
Oui, la moto.
Le surf, non.
Casse-cou, la pendaison.
Elle fait de la cascade.
Bonne vanne, mais
non. Le parachutisme.
L'alcool.
Le bras de fer.
Saut à l'élastique. Trampoline. Bras de fer. Quoi? Il l'a dit, François Manon.
Bah, il l'a dit, oui, mais
je ne savais pas moi.
Bah, d'accord.
Mais ça ne compte pas. Bah, donc il faut que quelqu'un de la bande le dise.
Bras de fer.
Bah, il fait partie de la bande.
Mais non, le saut, le parachutisme.
Le bras de fer. Exactement. Ah, bon, parce qu'il y a des points avec des primes et tout ça.
Ouais.
Mais
si.
Je t'assure, mais vraiment.
Je ne savais pas.
Mais non, mais tu
ne
savais pas qu'il ne fallait pas le dire.
Évident qu'il fallait du parachutisme.
En fait, vous étiez marraine de moniteur, mais pas de ski, c'est ça?
Et j'ai voulu les impressionner en arrivant par le ciel. Non mais
comme Johnny.
En fait, on m'a proposé de le faire. Et oui, c'est ça. Et mais d'ailleurs, oui. Et donc bref.
Je
suis sur le coup.
On m'a proposé de le faire et je me suis dit que c'est parce qu'il y avait des grands champions qui étaient là et donc je voulais vraiment donner un sens au fait que j'étais leur marraine. Et je suis arrivée en chute libre. Enfin bon, pas jusqu'au bout.
sans jamais l'avoir fait avant. C'était vraiment votre
baptême. Non, jamais, oui.
C'est dingue ça.
Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout.
Ce qui m'a
énormément surprise, c'est que je n'ai pas eu peur, jamais.
C'est exactement la question que j'ai posée. Aucune appréhension.
J'ai attendu tout le temps d'avoir peur. Je disais, non, ça va venir. Il me disait, vous avez peur? Non, pas encore, mais ça va venir. Et je n'ai pas eu, donc voilà.
C'est pas fou ça.
Ah ouais.
C'est fou. Et donc vous vous êtes dit, je vais renouveler
le
plaisir.
Oui,
et quelle sensation, celle de vraiment voler, le silence, qu'est-ce qui marque?
Ce que j'aime beaucoup, c'est le moment de la chute libre. Après, quand le parachute s'ouvre, ça me plaît beaucoup moins.
Parce qu'on est baladé.
Parce que je m'ennuie un peu, parce que c'est pas rapide, parce que... Et puis, c'est là où on a des pensées moyennes, genre, et si ça se détache, t'as le temps. Alors là, quand t'es en chute libre, rien ne peut arriver.
Là, on sait pas moyen, elle est
directe.
Non.
À 17 ans, lors d'une cuite, il n'y a pas d'autre terme, qu'a fait François Berléand?
Il a écrit une BD.
Il a dormi dehors?
Non. Il était bien torché. Hein.
Il a dormi au poste.
Ouais, il s'est livré à la police.
Il s'est mis tout nu, il a fait quelque chose.
Non, il aurait pu se mettre tout nu, mais il n'a pas fait.
Il a dormi chez quelqu'un d'autre, il est rentré dans une autre maison.
Il est resté habillé?
Non.
Il a racheté le bar?
Non.
Qu'est-ce qu'une cuite?
Non, normalement, à la limite, on se met tout nu pour faire ça. Lui, non.
Il a pris un bain?
Non.
Il a fait l'amour à quelque chose?
À quelque chose?
C'est pas lampadaire.
Alors, on l'a retrouvé.
Non.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a bu de l'eau.
Torche. Alors, ça, il n'y avait pas d'eau.
Ah, il allait plonger dans une piscine.
Il a sauté dans une piscine.
Exactement. Encore malade. Jérémy, il a sauté dans une piscine où il n'y avait pas d'eau. Mais vous êtes fou.
C'est comme Marine Le Pen.
J'étais bourré, quoi.
Et tu t'es fait mal?
C'est devenu ce qu'il est.
C'est depuis.
Alors peut-être qu'il y a eu un petit choc avec la tête. Ça, je m'en souviens pas. Mais j'ai dormi dans la piscine. Ce qui est formidable, c'est que j'ai dormi dans la piscine.
Quand tu viens
de dormir. Personne n'a vu.
En fait, vous êtes tombé dans le pédiluve. Vous n'êtes pas tombé dans la partie la plus profonde de la piscine.
Dans le quoi?
Pédiluve, là où on se rince les pieds.
Le quoi?
Pédiluve, là où il y a les mycoses.
Je ne connais pas ce mot-là.
C'est là où on attrape.
Moi, j'ai pas de piscine, donc je sais pas ce que c'est.
C'est là où on attrape la piscine. Dans n'importe quelle piscine municipale, il y a un pédiluve.
Ah, mais c'est pas une piscine municipale, là.
Ah, ouais.
C'était chez quelqu'un, c'était une soirée.
Il n'y avait pas de pédiluve.
Mais je crois, non.
Dans le petit bain, vous êtes tombé dans le petit bain.
Ah oui, non, t'étais profond.
Mais au moins, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un peu de mousse, parce que c'est. Il y avait un. Enfin, je veux dire,
c'est sale.
Il restait.
Voilà, je pense qu'ils n'avaient pas servi depuis très, très, très longtemps. Peut-être même des arbres qui poussaient.
Et puis, quand on est bourré, je crois qu'on on est mou comme ça. On accompagne le choc. Là, ça sauve la vie.
C'est le principe du combat.
Mais c'est vrai, parce que quand on résiste, c'est là où on se fait très, très mal.
Ce qui peut sauver la vie, peut-être, c'est de ne pas être bourré déjà dans un premier temps.
Non, mais une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, il faut assurer.
Vous savez bien que la législation me pousse à dire que l'alcool, c'est mauvais pour la santé.
Avec modération.
Mais c'est évident, hein.
Mais il conduisait pas.
La piscine.
Dans la piscine.
Quand on demande à Michèle Larocque avec quelle personnalité sportive elle aimerait passer une soirée, elle répond.
Teddy Riner.
Non. Mais ça rime.
Ah ouais. Roger Federer.
Exactement.
Ouais. Ah ouais.
Ah j'étais en R moi.
Bah ouais.
C'est l'idéal, c'est le champion par excellence.
J'adore son jeu. J'adore.
Son élégance.
Son élégance et sa façon de son attitude sur le terrain, son esprit, puis le fait qu'il soit encore là, l'exemple qu'il donne à la terre entière.
Et vous dites même son regard. Vous trouvez quoi
dit son regard.
Oui, vous parlez de son regard.
Alors son regard.
Alors qu'est-ce que
Non mais pardon, parlez plus loin. Est-ce que vous le trouvez physiquement beau? Est-ce que
c'est son parcours. Non voilà, d'accord. C'est ce qu'il dégage et la grande classe. Ouais. Et puis en plus, il était pas comme ça au départ. Il était très très capricieux sur un cours. Donc il a fait un vrai travail. J'adore les gens qui évoluent. Et donc voilà, j'ai envie qu'il me donne tous ces
secrets. C'est vrai qu'à propos de tennis, quand vous étiez petite fille, vous avez changé des balles à Nice avec une star du.
Tous, ils étaient tous là parce qu'ils faisaient tennis études dans le club où je jouais, et moi, on m'avait forcé à en faire, donc ça me plaisait pas du tout. Et il y avait Noah, enfin, il y avait tous ceux qui ont formé l'équipe de France, mais qui sont arrivés à 12 ans.
Donc vous avez joué avec Yannick Noah.
J'étais dans la même équipe, c'est carrément ridicule. Parce que, je sais pas pourquoi, on faisait une petite équipe de club, et je me suis retrouvée avec des grands champions. Moi, je ne pensais qu'à rire. C'est-à-dire, ils m'ont viré un jour, parce que j'avais une partenaire de double qui était très drôle. Et Ariane Schill, je lui rends hommage. Et elle m'a tellement fait rire que je suis tombée à genoux sur le court.
Morte de rire, quoi, vraiment.
Mais morte de rire. Et il y a que ça qui me plaisait. Et puis, le président du club m'a fait signe de venir vers lui. Et il m'a dit tu es viré.
Allez, dernière question. Quand François Berléand s'installe dans un rôle, pourquoi ce n'est pas toujours facile pour ses proches?
Il chante.
Parce qu'il a du mal à le quitter le soir en rentrant à la maison.
Exactement.
Ah bon?
Vous restez le personnage.
Tu vas rester mort là.
Dans la vie quotidienne, vous restez le personnage.
C'est vrai.
Un peu, ouais.
Si vous jouez un flic, vous rentrez à la maison, continuez
police.
Il prend les empreintes.
Demande des papiers à tout le monde.
Perquisition à la maison, quoi.
Voilà. Non, mais c'est. Alors là, ça peut être un peu difficile. Non, mais c'est l'énergie du personnage que je garde à la maison.
Non, mais pardon. Alors, si vous jouez quelqu'un de méchant, vous rentrez à la maison, vous restez dans la méchanceté. Si vous jouez un crétin, vous continuez de faire les teubés. C'est
oui,
ça.
Oui. Moi, j'avais
joué un crétin il n'y a pas longtemps.
Souvent. Mais une fois, j'en ai fait un particulièrement con. C'était dans le bureau. Je jouais le. C'était un truc pour Canal.
C'était génial cette série.
Et je jouais vraiment le chef d'établissement qui était un abruti mais total. Et mais j'avais besoin. Pour travailler le rôle, d'être comme ça à la maison. Quoi. Et donc j'étais sans arrêt, je faisais des blagues.
Ce qui est formidable, c'est que quel que soit le reproche que puisse vous faire votre femme ou vos enfants, si vous, dans un élan de mauvaise foi, vous pouvez toujours dire « Non mais là, je joue un rôle ». Ah. Je joue un personnage.
Non,
si
je
on vous reproche quelque
chose.
Non, non, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Hein.
Bien, revenons donc à cette pièce. C'est une création, oui. Avant d'être une récréation. D'ailleurs, nous l'avons lue, puisqu'elle ne démarre que demain. Est-ce que vous mettriez d'ailleurs cette pièce dans le domaine de la comédie dramatique? Il y a des moments d'émotion, on le sent, mais il y a aussi des moments de
rire. On rit beaucoup, évidemment, mais effectivement, au troisième acte, ça devient plus une comédie dramatique. Mm.
Là, il y a un questionnement. C'est-à-dire que mon personnage donne un peu le là au niveau du comique, puisque il y a deux personnages qui ne me voient pas et qui ne m'entendent pas. Oui. Moi, je commande tout ce qu'il
dit. Il dit des horreurs.
Donc l'étudiant qui est dans la chambre d'à côté, voilà. Et qui est le copain de votre
fils
et qui, pendant que le fils est au Japon, habite dans cette loge ou cette chambre d'étudiant, est tombé amoureux de Michel Larocque. Oui. Elle se dit, elle est veuve, elle est seule.
Non, mais oui, en plus, je le connais depuis la maternelle. Hein,
ouais. C'est gênant. Voilà, donc c'est gênant. Mais lui se dit, mais voilà.
Lui se dit, ça y est, c'est bon.
Je peux, voilà. Je peux la draguer. Et puis, cette auteur, Max, joué par Lionel Abelansky.
C'est très drôle aussi.
Vous a toujours aimé également. Et vous ne saviez même pas, d'ailleurs, à quel point il y a si longtemps. Puisque
j'avais oublié,
on va pas tout dévoiler, mais il était aux prémices
au début de l'histoire
d'amour.
De notre histoire, voilà.
Avec Julien, le mari décédé. Donc, ils ont tous ce poids d'être amoureux avec une impossibilité de conclure. et vous avez toujours cette distance et vous n'avez pas totalement fait le deuil.
Non. Et puis je pense que quand on était mariés, quand il était vivant, il y avait un petit jeu là-dessus. Et que ça l'amusait beaucoup de voir sa femme séduire, enfin plaire. Et donc je crois que c'est une forme de fidélité qu'elle continue à essayer de plaire pour lui. Comme ça a été le cas dans nos... Non ?
Oui, ça c'est ce qu'elle décide.
C'est pas votre vision, vous, François ?
Elle se fait belle pour vous aussi.
Oui,
elle reste dans ce souvenir. Et puis le comique, il vient en effet de ce principe de l'aparté. C'est-à-dire que l'aparté, elle concerne aussi bien le public, puisque les deux autres personnages qu'on vient d'évoquer, l'auteur et le jeune homme, ne vous voient pas sur scène. Et donc vous communiquez à la fois avec votre femme et avec le public qui est dans la confidence. Donc c'est ce qui crée sans cesse le comique.
Absolument. Exactement. Et puis après, la dernière scène, parce qu'il y a trois tableaux, le dernier tableau, là, il y a toujours du comique, mais il y a de l'émotion. Oui. Parce qu'il y a
une belle histoire d'amour.
Parce qu'on est dans la loge, elle s'apprête à monter sur scène et c'est
elle fait tout pour ne pas y aller.
Ira ou ira pas, c'est là où il y a la bascule.
Et puis c'est là
évidemment
où...
ce qu'on vous reproche, pardon Michel Larocque, ce qu'on vous reproche en tout cas, ce que votre mari fantôme entre guillemets vous reproche, c'est qu'en fait ce qu'il dit, c'est ce que vous décidez qu'il dise quelque part.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est un fantôme et donc il est un peu votre mari.
Enfin, pour nous tous, c'est très clair. Enfin, on a souvent des pensées, une dualité quand même de pensée. Et effectivement, à un moment donné, on choisit un côté ou l'autre. Et là, de temps en temps, il me renvoie des pensées un peu violentes ou négatives et que j'assume pas toujours. Et puis après, les autres reprennent le pouvoir. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire pour ce dernier acte, qui est assez fort, elle fait avec, elle a recréé une vie qu'elle a aimée pendant, et donc ça reste drôle tout le temps. Et tout d'un coup, au moment où elle est prise à son propre piège, elle craque. Et c'est toujours beau aussi de voir quelqu'un qui est fort tout le temps, laisser aller tout et dire des vérités qui sont émouvantes.
Et c'est confortable, François, de jouer un personnage qui est censé être, entre guillemets, absent et qui fait que des apartés, que des commentaires, que ponctuer même les répliques des autres. On vous imagine dans votre barbe comme ça, un peu...
Voilà, c'est très cynique.
Casser les autres.
C'est évidemment très cynique. Mais en même temps, on a du dialogue ensemble.
Bien sûr.
Quand il n'y a personne d'autre.
Voilà, quand il n'y a personne d'autre, on parle. Et c'est ça que j'aime dans ce que j'ai aimé dans la lecture de la pièce, c'était justement cette possibilité d'être cynique et d'amener, d'avoir des rires sur les répliques, et puis en même temps d'avoir des choses fortes à se dire.
Et de jouer tout le long, même quand il n'y a pas de dialogue, de réagir aux situations, au regard.
Voilà, le personnage est tout le temps en situation. Moi, j'avais jamais. Enfin, C'est assez particulier parce que c'est le deuxième fantôme que je joue en oui. six mois. Parce que j'ai tourné un film où j'étais un fantôme, je sais pas pourquoi. Là,
pour le fils de l'homme invisible, c'est pas
oui.
surprenant.
Non mais voilà, oui, mais c'était assez particulier. Mais ce qui est amusant à jouer là, c'est qu'en même temps le personnage existe de manière très très forte puisqu'elle le convoque sans arrêt. Et puis en même temps, voilà, il est là et il commente oui. et il se fait chier parce que voilà, et l'autre, qu'est-ce qui m'emmerde,
tu avec beaucoup d'autodérision, notamment voilà, sur le moindre bruit, en disant il faut être mort pour pas l'avoir, voilà, pour c'est pas ça, l'entendre. Ouais. Ouais. Suite, voilà. Ouais. Donc ça rit, ça touche, ça s'émeut, ça se passe au théâtre Édouard VII, théâtre qui vous avez déjà accueilli il y a 12 ans, toujours sous la direction de Bernard Murat. Vous
étiez toujours mariés d'ailleurs,
tous ouais. les deux réunis pour un Guitry cette fois-ci.
Faisons un rêve.
Et ouais. c'est la première fois depuis 12 ans que vous vous retrouvez au théâtre.
Oui.
Ouais. Et même au cinéma. Ouais.
Ah oui, vous ne vous étiez pas retrouvés depuis 12 ans.
On a... alors, on a failli.
Il y a un problème ?
Non.
Je t'avais dit qu'il ne fallait pas l'inviter.
Je t'avais dit. C'est incroyable, ça. Tom... Il y a le droit de pas Tom... se voir tous les jours non plus.
Tom, je ne sais pas ce que c'est. Moi. Tom oui. Villa, malgré la présence de François Berléand, cette pièce sera un succès.
Ouais, bah, faut qu'on arrête avec cette question. D'ailleurs, c'est vrai qu'on cherche le mot succès dans le dictionnaire des synonymes. On tombe sur Michel Larocque, c'est évident. Moi, sur François Berléand, mais ça, c'est pas grave. Non, ça, faites pas votre ouais. choquer. Vous n'avez pas des acouphènes souvent entre si. 11h et midi ? Cherchez pas, allez pas chez L'Oréal, c'est à cause de Nagui. Ah non, mais je vous jure, il y a plus souvent le nom de François qui est cité que certains chroniqueurs de l'émission. Aux ressources humaines, ils sont merdés. Comment on fait ? Est-ce qu'on doit le payer ?
On le déclare.
Et en même temps, on se pose cette grande question. Vaut-il mieux une vanne dans le lot de la part de Nagui ou un compliment de face de la part de Christine Angot ? Voilà, vous avez 3 heures, je vous ai vu samedi chez Ruquier. Donc oui, succès assuré pour cette pièce où je rappelle le pitch pour les auditeurs qui viennent d'arriver. Michel et François, vous jouez donc un couple fusionnel. Michel, vous jouez le rôle de Suzanne et François, vous jouez le rôle de Julien. Alors pourquoi celle qui fait jeune, on lui a donné un prénom de vieille alors que celui qui fait. Je sais pas. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, autant. Non mais.
Ah là là,
c'est non mais c'est vrai, autant. C'est marrant parce que dans le dos, c'est plus facile de faire des vannes. Hein, t'as raison, Nagui.
Toi, t'es surtout à 22 cm de
c'est
lui.
C'est ça. Non, il se rapproche, 19. Non mais c'est vrai, autant Michel et François, c'est sympa. Ça fait petit couple de banlieue, Michel et François. Ah. Samedi, on a pris le scénic, on était chez Michel et François, Sergi Ponsoise. Michel nous a fait des rognons sauce gribiche à tomber. Bon, par contre, c'est vrai que François, oh, il a pas d'arthrose au coude. Hein, il consomme plus que ma bagnole, il est pas passé à l'hybride. Non mais c'est vrai. Alors qu'au niveau des prénoms.
Il est pas l'hybride, non, ça c'est sûr. François, il est pas l'hybride.
Alors qu'au niveau des prénoms, Suzanne et Julien, juste sans le son, enfin sans l'image, juste au son, on dirait une prof qui se tape son élève. Mais bon, regardez où ça peut nous mener, ça c'est pas le problème. Bref, donc dans la pièce, on revient. Suzanne et Julien sont en couple et sont un couple très fusionnel. Julien a eu un petit souci d'accident de voiture qui a entraîné un décès. Et là, c'est le drame. C'est le drame quand c'est la fin d'un couple très fusionnel, c'est la cata. Parce que c'est vrai que les couples fusionnels, c'est quand même extrêmement chiant, pénible. Hein. On en connaît tous et on les déteste. Vous savez, c'est ces gens qui, même au bout de 10 ans de relation, disent encore « Non, c'est toi qui raccroches. » Alors qu'au bout de 10 piges, logiquement, tu t'appelles plus. Tu t'envoies éventuellement un SMS du genre « Et prends du pain aussi !» Voilà, c'est plus des points d'organisation que des déclarations d'amour, tu vois. Et puis en soirée, ils sont tout le temps collés. Il y a un moment, faut se lâcher la main. Dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre qui suit, on dirait des gamins en rang pour aller à la cantine. Bah non, on rentre parce que Catherine se sent pas bien. Voilà. Mais toi, ça va ? Eh ben, tu la ramènes et tu reviens, parce que de toute façon, elle va dormir au bout de 20 minutes, ça change quoi pour elle? Je veux dire, t'es un homme, t'es pas un Saint-Bernard. Je veux dire, autant au 12e siècle, je comprends qu'il fallait quelqu'un pour veiller le malade, mais aujourd'hui, avec le smartphone, ok Google, a priori, un doliprane dans ce passe-pont, ça va bien se passer. Non, mais c'est assez chiant, les couples fusionnels. Et puis, souvent, dans ces couples, ils se sentent obligés de se justifier. Non, mais on est très heureux comme ça, on a besoin de personne. Je veux dire, quand tu te sens obligé de te justifier, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je veux dire, les échangistes, ils t'expliquent pas pourquoi c'est normal de partager sa femme. Tu vois, ils font leur truc et puis c'est tout. Bref, en tout cas, franchement, à choisir, je crois que je préfère encore mes potes avec des enfants. Au moins, eux, ils ont une excuse valable pour ne plus venir aux soirées. Ça, c'est quand même l'avantage. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Peut-être une prochaine pièce. Allez, bonne émission.
Merci, Tom Villa. La bande originale,
Nagui. France Inter.
Avec Lionel Abelansky, Vinnie Dargo, François Berléand et Michel Larocque qui sont nos invités. Cette pièce au théâtre Édouard VII, ça commence demain. Dans quel état d'esprit on est justement à la veille d'une première, Michel ?
Alors, je vais parler pour moi parce que François va exprimer avec sa mauvaise humeur dans quel état d'esprit. je suis très impatiente. J'ai très envie
en
de
appétit,
partager.
Donc.
Ah oui.
Après avoir fait un filage hier, une dernière répétition,
il y en a encore aujourd'hui. Hein.
Il y a une couturière
ce soir.
On
joue. Donc il y a quand même 500 personnes. C'est la première.
C'est la dernière répétition en costume, une couturière, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est... Pour justement voir si.
Devant 500 personnes.
Il faut faire des
bidon,
reprises.
Complètement bidon, non, parce que.
L'expression vient de là, savoir s'il faut reprendre les costumes ou pas. C'est
oui,
pour
voilà.
La couturière.
Exactement.
Mais
la, d'ailleurs, la couturière vient sur scène de temps en temps. C'est, ouais, c'est un peu long.
La perruquière, il y a la perruquière. La costumière, il y a le chausseur qui vient aussi.
Le maquilleur.
Oui, c'est ça. Tu brilles un peu.
Bon, les Italiennes et les Allemandes, on ne sait toujours pas d'où ça vient.
Oui, l'Italienne.
Alors, l'Italienne, c'est à toute vitesse.
Non, ouais, une c'est... italienne, c'est sans intention.
Non, oui, une italienne, c'est dire le texte.
Oui, c'est ça, c'est le texte.
À toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse. Et une allemande, c'est en place.
Ah, avec les déplacements. Avec les déplacements.
Oui, la moitié.
Donc finalement, une couturière, c'est peut-être même plus de pression.
C'est, pour moi, c'est,
ouais,
c'est une première.
Parce que c'est les copains qui viennent
non,
aussi ou pas?
Non, justement, c'est pas,
c'est
pas les copains.
Pas les copains, non. Non.
C'est des gens souvent qui jouent d'ailleurs au théâtre et qui
ont
leur unique chance de voir la pièce.
Parce que c'est lundi et que donc ils ne jouent pas de l'autre côté, ils peuvent venir vous voir.
Mais si vous voyez une couturière, il y a toujours la table du metteur en scène au sixième rang, il y a la table du régisseur lumière. Et il y a
on en travaille
général,
encore.
Bernard Murat fait un petit
et
discours.
Et alors hier soir,
expliquer.
J'ai avant le filage, j'ai dansé un peu, j'ai fait danser un peu François. Il m'a dit alors écoute ce soir d'accord, aujourd'hui d'accord, demain après-demain tu t'oublies.
Alors donc on a compris l'état d'esprit dans lequel était Michel Larocque et vous François Berléand.
Moi j'ai
vous êtes track
un track épouvantable et voilà, c'est comme ça. D'ailleurs ça commence là et voilà.
Mais c'est un track qui est récurrent chaque fois que vous montez sur scène.
C'est un track récurrent. Alors pour les premières représentations, c'est vraiment très, pour moi, très très difficile. Je suis vraiment dans un état épouvantable. Je me vide, de
toutes parts.
Voilà, de toutes parts.
Merci.
Ah, de toutes parts, c'est mieux que de partout. Oui. Et je me vide de toutes parts.
Merci pour ce détail.
Voilà. Et bon c'est d'ailleurs, j'ai une loge spéciale.
Dès le matin.
Je ne mangerai pas de la journée.
Cette loge spéciale s'appelle les toilettes.
Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais il y a les toilettes.
L'espace Berléand.
L'espace Berléand.
Il y a un rooftop, c'est très bien organisé.
Oh, je suis là. Chaque
fois, je dis, où elle est dans son espace.
Et voilà, et c'est, ça ne me quitte pas pendant 15 jours. Et puis après,
ah bon, 15
une
jours
fois, pendant le spectacle.
Mais tu m'incites alors beaucoup.
Oui, mais je reprends le soir. Dès que c'est fini, après, je mange le soir. Et c'est 15 jours, à peu près 15 jours. Et puis quand le spectacle est vraiment. Enfin, on a nos assurances, entre guillemets. Voilà, je commence un peu à me libérer.
C'est long, 15
mais
jours.
J'ai toujours le trac, hein, quoi qu'il arrive.
Ouais, est-ce que j'allais dire, ce trac-là, pardon, il
c'est de l'ego, c'est de l'ego.
Voilà. Il repose
aussi,
sur.
Peut-être, oui, certainement.
Sur vous et vous. Ou vous vous posez des questions là particulières, parce que d'abord c'est une création, cette pièce n'a jamais été jouée avant. Vous auriez le même track
avec
Guitry. Ah non,
le même track avec n'importe quoi.
Sur un Guitry.
Bah, encore plus avec Guitry. J'ai joué deux pièces de Guitry, dont un des rôles qu'avait joué Guitry dans Quadrille. Et je peux vous dire que là, c'est encore plus de pression.
D'accord.
Parce que
donc c'est votre jeu. Guitry. Donc la question, c'est votre
c'est moi,
jeu.
C'est, alors c'est un ego surdimensionné, d'accord. Peut-être. J'en sais rien. Mais c'est la peur de mal faire. C'est la peur de pas être à la hauteur. C'est la peur de décevoir les partenaires,
il a peur de
etc.
décevoir.
Moi, je viens du subventionné. Donc dans le subventionné,
t'as pas de partenaire.
Voilà, on les voit pas. On les voit pas les partenaires. On les voit pas.
Que des
mais on a le metteur en scène qui est là. C'est la différence entre le subventionné et le privé. Et le privé, c'est les affiches. Vous avez par exemple là, la dernière que j'ai vue, ça m'a fait rire. Vous avez le misanthrope en énorme, une photo et un mec qui s'appelle je sais pas quoi, Dana. Je sais plus le prénom.
La
Dana.
Tribu.
En très gros.
La tribu de
et Molière est tout petit. Molière, c'est tout petit. Donc voilà, si vous laissez d'abord la pièce, le nom de la pièce.
Après le metteur
après,
en scène.
Le metteur en scène. Et après, il n'y a pas un nom d'acteur, il n'y a rien, on ne sait pas.
Après voilà. Moi, le déluge.
Voilà.
C'est ça.
Alors que là, sur la
tête, t'avais moins le trac dans le subventionné.
Bah dans le subventionné, j'ai autant le trac.
Ah bon, oui,
parce que
bon.
C'est ça,
alors,
c'est la peur de recevoir le metteur
en
scène.
Alors que sur l'affiche d'encore un instant, vous êtes en photo, Lionel, Michel et vous, François, avec ce trucage, je ne sais même pas d'où vient cette photo, vous en train de rire, ce qui est extrêmement
non,
rare.
Ou alors il est dans son espace. Mais
c'est pas moi. Faut bien dire, ce n'est pas moi sur la photo.
Encore un instant, on a hâte en tout cas de la découvrir, ça sera au théâtre Édouard VII, mise en scène par Bernard Murat. Voici Jérémy Crémier.
Bon, ça vous énerve pas, vous, les gens qui s'énervent pour rien ?
Voilà, bah, moi j'aimerais pousser une gueulante, déjà pour que revienne cette expression, pousser une gueulante, mm-hmm. Et ensuite parce que cette semaine, j'ai connu l'enfer.
C'est pas possible.
Si. Bon, comme j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Jérémy Crédville est un jeune trentenaire dans le vent, un vent du nord qui l'ébouriffe. Élevé à la dure à coups de ceinture et d'endives, il décide, à 15 ans, de quitter le domicile familial pour enfin aller à l'école. Arrivé à Paris en 2016, il se lance dans l'humour comme on lance un caillou dans la mare. Parfois ça ricoche, parfois ça fait plouf. La semaine dernière, il a connu l'enfer et il va nous le raconter après 3 secondes de silence radiophonique.
Non, c'est long.
J'ai essayé de prendre le métro à Paris avec une poussette. Voilà, c'est ma galère. C'est une galère sans nom, comme Nagui, de prendre le métro avec une poussette. Paris, métro, poussette, en 3 briques à pyramide, tu peux faire deviner suicide avec ces mots-là. J'embrasse au passage Pépita qui nous écoute certainement.
Ah oui, les magasins Mironton J'aime.
Ou Barjabule, évidemment. Eh ben, c'est plus facile de répondre à Mironton ou Barjabule que d'avoir une poussette dans le métro. Parce qu'il y a des stations, t'as l'impression que c'est le musée de l'escalier. C'est hallucinant, comme dirait Lucchini. Alors... j'ai eu la chance, moi, au final, de m'en sortir, parce qu'il y a un mec qui m'a aidé à descendre dans la poussette, c'était donc, vous l'aurez compris, un touriste.
À descendre dans la poussette ou avec la poussette?
Non, il a descendu la poussette.
Ah, d'accord, parce que t'as dit dans la poussette.
J'ai dit dans la poussette.
Ouais, toi, dans une poussette, je peux pas l'imaginer.
Ah bah écoute, des fois
non,
ça m'arrive.
Non, j'ai pas envie.
Non, mais là, je me suis dit un truc, quand t'as une poussette, c'est chiant. Enfin, c'est surtout le truc qui gesticule dans la poussette qui est chiant, surtout si c'est moi. Mais quand t'es en fauteuil roulant à Paris, tu fais comment? Parce que c'est vraiment un truc fou. Paris, ville lumière, bah, je peux vous dire que ceux qui ont créé les lignes de métro à Paris, ils l'ont pas à tous les étages, la lumière. À moins que ça ait été fait par des mecs fans de parcours.
Pour aller à un endroit, on va faire une sorte de labyrinthe avec plein de marches, ça va être super.
Ah, t'es ingénie, RATP.
On fera répéter 2 fois le nom des stations, mais pas tout à fait de la même façon.
RATP.
On mettra un autocollant avec un lapin rose en jean qui vous dira de ne pas mettre ses doigts sur les portes. Attends, RATP. Et surtout, on mettra pas d'ascenseur, jamais. Je suis resté coincé dans un ascenseur quand j'étais...
Voilà, c'est la seule explication logique. À Lille, on a 2 lignes de métro. Hein. Je vois bien les Parisiens me dire, oh, bah, ça fait une de trop. N'empêche qu'à Lille, tout le métro et tramway eh ben, est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et je peux vous dire qu'à Lille, mais c'est vrai.
Non,
mais
Paris, tout le temps.
Ouais, non, mais à Lille, beaucoup de personnes ont une mobilité réduite suite à la quasi-gratuité de la bière. À Lyon, pareil. Les 4 lignes de métro sont accessibles à tous. Il existe donc des frotteurs en fauteuil. C'est pas ma bite, c'est mon accoudoir. À Paris, il y a 9 stations sur 303 qui sont accessibles aux personnes handicapées. Elles sont toutes sur la même ligne. La ligne 14. À croire que tous les tétraplégiques de Paris sont entre Olympiade et Saint-Lazare. C'est vrai. Même à la station Invalide, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a pourtant un indice dans le nom de la station. C'est quand même fou, t'imagines? Philippe Croizon, il n'a pas de bras, pas de jambes. Il peut traverser la Manche à la nage, mais il ne peut pas faire République Bastille en métro. Voilà. À Paris, on ne respecte pas les handicapés. On devrait pouvoir dire les handicapés. C'est des personnes, pas des haricots verts. Mais non, on ne veut pas de liaison avec les handicapés. Moi, je suis pour l'égalité et les handicapés ont aussi le droit d'être entassés sur les quais bondés de la ligne 13. Les handicapés aussi ont le droit de vivre des « en raison d'un accident grave de voyageurs ». Faut arrêter d'être égoïste. Il faut partager nos suicidés avec les handicapés. Il faut qu'ils ressentent le malheur des gens valides coincés pendant 11 stations avec un accordéoniste. Ouais. Et quel bonheur cela doit être pour une personne en fauteuil d'avoir la tête dans le cul, mais celui d'un autre dans le métro. Après, moi, j'ai essayé d'agir, mais c'est compliqué. J'ai organisé une marche pour les handicapés. Personne n'est venu. Et puis, c'est dans la loi. C'est dans la loi depuis 2005 que ça doit être accessible. Encore un an et on fêtera les 15 ans du non-respect de la loi. 15 ans sans respecter la loi et sans se faire choper, vous verrez qu'on va s'appeler... la loi va s'appeler la loi Balkany, j'en suis sûr. Moi, je pense qu'avec un petit effort, on pourrait tendre vers l'accessibilité des transports à tous et ainsi permettre aux gens en fauteuil roulant de joindre les deux bouts. Merci.
Merci. La bande originale. Tout à l'heure, nous recevrons Saverio Tomasella, qui est psychanalyste et auteur de nombreux livres sur les relations fusionnelles, justement, puisque c'est un couple fusionnel que vous interprétez au théâtre dans encore un instant. Mais d'abord, en musique, ce que vous écoutiez, Michel Larocque, dans les années 70, fin des années 70. Night Fever, quand vous écoutez cette musique, vous revoyez quelles images vous voyez?
Oh ben Travolta, évidemment, puis des images...
Non, mais je parle des images de vous.
Ah
vous
non, êtes... ah ben non, alors là, pour le coup, de l'accident, j'étais à l'hôpital, et j'avais demandé à ma mère d'aller m'acheter donc les Bee Gees, elle était allée demander les Jibbies.
Avec la bouteille.
Ils ont eu du mal à trouver tout de suite ce qu'elle voulait. Bernard Lavalier et les Jibbies, elle avait demandé. Mais j'ai eu du bol, elle a... ils ont
drôle.
Réussi.
Ouais. C'est tellement drôle. Oui. Revenez avec une bouteille de whisky. Mais c'est ce que tu m'as demandé, mon amour. Écoute.
Et c'est l'accident de voiture donc, dont vous parliez.
Oui, c'était en 79. Et effectivement, j'ai ce souvenir d'avoir demandé ça, ces CD-là.
Col du fémur en je sais pas
18 morceaux.
Ouais. 11 opérations. 2 ans alité à l'hôpital.
Pas alité 2 ans, mais j'ai quasiment mis 2 ans à remarcher. Ouais. Ouais.
Et, et vous étiez à la limite de perdre une jambe, en fait.
Oui, bah oui, parce qu'il faut tomber sur le bon chirurgien. Quand un chirurgien ne sait pas comment faire, avec 18 morceaux, il dit il faut amputer. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est des infirmières qui ont empêché que j'aille à l'étage où je devais aller, où le chirurgien était
réputé pour être
pas très bon. Ouais, ouais. Et il y a un jeune chirurgien, elles sont allées lui montrer la radio de mon fémur, et il a dit je me porte volontaire. Et tout ça parce que je les ai fait rire au réveil.
C'est formidable comme histoire. C'est formidable.
C'est angoissant en même temps.
Non, oui. C'est angoissant.
Ouais, parce que si c'était pas drôle, ben voilà.
Ouais. C'est ça.
Comme quoi, faut toujours rire de tout. Hein.
Ouais.
Ah, voilà. Mais
moi,
non, mais c'est
hyper angoissant. Mais toi, il t'ampute même celle qui est intacte en disant
on va faire plus. Ouais, les deux, allez, hop.
On va prévenir.
C'est joli, c'est très joli comme histoire. C'est dramatique.
Elles étaient très drôles en plus. Elles étaient à la nuit. Infirmière de nuit et puis l'aide-soignante de nuit, et j'ai passé des nuits blanches à rire avec. Elles m'ont sauvée.
Et qu'est-ce qui vous
faisait, tellement important.
Pardon, malgré votre situation et le drame que vous viviez, pourquoi le rire devient une roue de secours, une bouée de sauvetage?
Depuis que je suis née.
Il n'y a aucun moment où vous êtes dans un spleen total et...
Plus la situation est dramatique, plus j'ai des idées drôles. Je pense que c'est une façon de...
Vous sauver.
De
lutter.
Oui, bien sûr. Je crois que quand on fait notre métier, on est ultra sensible. Et si on n'a pas d'humour, la vie risque d'être compliquée. Ouais, hein. Très compliquée.
François Berléand, vous écoutiez fin des années 70.
Ah, ça m'étonne pas.
Tout pour le slow.
C'est-à-dire que si...
Combien de temps ça dure?
6 minutes 30.
T'es obligé, slow.
Si tu n'emballes pas sur tel téléphone, c'est que t'as aucune chance d'emballer. Voilà.
Lui, il a 6 minutes pour trouver une partenaire avec qui danser. Ou un vol de sourire, il reste 30 secondes de slow.
À l'époque, dans les boîtes, c'est ça qui était... Il y avait des slows.
Mais évidemment. C'était génial.
Et c'était formidable pour...
En plus, c'était bien fou parce que c'était à la.
Je voudrais revenir,
pardon,
sur quelque chose, parce que sur les handicapés.
Oui. Hein,
pourquoi il n'y a pas la liaison ou la liaison?
Oui.
Vous le savez ou pas?
Mais non, dites-moi.
Alors, c'est parce que handicap, c'est anglais. Et donc, on ne fait pas la liaison avec
les
mots anglais ou allemand, d'ailleurs, etc.
Handicap, donc, c'est en fait, c'est les mains dans le chapeau.
Comme les haricots.
Handicap.
Bizarrement, c'est allemand, je crois, le haricot. Surtout
merci François
mouton.
Pour mais cette précision.
Après,
ouais.
C'est pas ça. Et maintenant après, pour les handicapés, parce que j'ai joué un.
Et vous savez pourquoi héros et héroïne, c'est pas le même H aussi. On dit un héros, on dit une héroïne. On fait la liaison. Savez-vous
pas
pourquoi?
Une héroïne.
Non, on dit un héros et une héroïne.
Et sinon, ce fémur.
Donc la raison est pour que au pluriel, ça ne fasse pas des zéros, mais au sens zéro, ils sont nuls. Voilà. Mais on peut dire des héroïnes.
Voilà. Et après,
revenons sur le handicap.
Voilà. Et sur les handicapés. Par exemple, le métro.
Le mépris. Le mépris.
Parisien, pardon. C'était en 1900. Et les provinciaux, ça a été en
plus tardif.
2000, 1990, etc. Donc il y avait l'ascenseur. C'était pas un problème. Maintenant, c'est un vrai. Mais je vous disais que dans la RER, il y a des ascenseurs. Et puis, dans les bus, pardon, mais
il y a des ascenseurs.
Non, mais il y a des plateformes qui se. Ouais. Donc, dans des bus, vous pouvez prendre des bus en fauteuil. Je le sais parce que j'étais en fauteuil. Bon,
François Berléand,
je suis désolé, il n'y a pas qu'elle. Hein.
Je suis désolé de vous interrompre, mais nous sommes à l'antenne et nous entendons tout ce que vous venez de dire.
Non, c'est vrai.
Et nos auditeurs s'inquiètent du manque d'intérêt de cette émission.
Et on voulait parler avec vous de Martin et Léo, François. Léa, votre première apparition au cinéma, un film d'Alain Cavalier.
Oui.
Classe. Oui. Après, vous aviez déjà une carrière à votre actif au théâtre, mais le cinéma, c'est venu un peu plus tardivement.
Oh bah... Beaucoup plus tardivement, c'est gentil.
Ouais.
Vous êtes gentil.
Ouais, oui.
Oui.
Pourquoi donc? Comment vous l'expliquez?
Bah, il n'y a qu'à voir les films. Hein. J'avais quand même pas de physique, j'étais pas bon. C'était. Non, mais si vous voulez.
On peut être bon sur scène et pas bon devant une caméra.
Ah, bah oui, c'est sûr. Non,
mais surtout, et l'inverse aussi, on peut être bon devant une caméra et mauvais sur scène.
Voilà, absolument. Non, mais ce qu'il y avait, c'est que.
On peut être mauvais.
On peut être bon et bon aussi, oui.
On a fait le tour.
Moi, chaque fois, on proposait toujours des tout petits rôles, donc j'avais pas grand chose à défendre. Et à chaque fois, quand je venais du théâtre, on me disait surtout, tu ne fais rien. Donc je ne faisais rien. Donc je disais le texte, voilà. Puis à plat. Et à l'époque, c'est vrai que les films, les comédiens jouaient beaucoup à plat. Quoi. C'était l'année 70. Et Et comment y a pas, c'était atonal comme les Américains.
Quoi, ouais, et comment Alain Cavalier vous déniche
Grâce à Hubert Samakari, et donc grâce à son frère Xavier Samakari, qui est mort maintenant, mais voilà, c'était lui qui jouait le rôle principal. Il m'a présenté à Alain Cavalier, j'ai joué le policier. Et j'ai une anecdote absolument formidable, si on me laisse le temps
oui,
de parler.
Oui, allez-y, François. Voilà.
Dans la jouée, la bonne humeur.
Alain Cavalier ne voulait plus du tout d'équipe technique importante, donc il y avait simplement un chef-op, un ingénieur du son, qui faisait tout, hein, et puis c'est tout. Il y a un éclairagiste. Et donc, on était en bas, avec Isabello, et on devait sonner à l'interphone, prendre l'ascenseur, monter 5 étages, et puis c'était un plan séquence, et donc on arrivait sur le... Or, il se trouve que quand
un
on a sonné...
Un plan séquence, ça veut dire que la caméra ne devait pas couper,
voilà,
on suivait du
on
début
suivait
de la scène
l'action de Xavier Samakari. Donc je sonne à l'interphone, et c'est qui Léa, tac, on monte, sauf que pas d'ascenseur. Donc on monte, mais il est de 5 étages.
En plan séquence
arrive, oui, en plan séquence, enfin, sauf que la caméra n'était pas sur nous.
D'accord.
Et donc là, on sonne, et j'en fais... Police.
C'est le voix soufflée.
Alain Cavalier coupe et me dit... C'était mon premier genre de tournage avec lui. Et François, tu sais, voilà, c'est un métier, c'est très calme. Tu sais, c'est pas... Ne t'angoisse pas, c'est rien. On peut couper. Mais pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà. Donc ça a été...
Ça rejoint la chronique de Jérémy, absolument.
Voilà. C'était dans le métro.
Milieu des années 80, Michel Larocque, vous écoutiez... C'était bien. C'était une gifle hein, le jour où est sorti cet album aussi, voilà, Let's Dance. Certains pouvaient reprocher de faire du disco, entre guillemets, puisque ce titre avait été produit par Nile Rodgers, qui était celui qui a fait Chic, le fric c'est Chic. C'était partie de reproches qu'on faisait à David Bowie. Oui, on a été gâtés d'être des contemporains de ces artistes-là, c'est clair.
Nous avec Jérémy, moi. C'était les To Be Free, Laurie et Sandy Valentino.
Ah, oui, mais on est l'année qu'on mérite. Hein.
C'est ça. Ça fait des générations comme ça. Voilà.
Et vous, Michel, c'est une première fois là aussi, cette fois, c'est au théâtre, dans C'est encore mieux, l'après-midi.
Ah, oui.
C'est votre premier rôle vraiment au théâtre. Quel souvenir vous en gardez ?
Mais énorme, parce que c'était avec Jacques Villeray et Pierre Mondy, et c'est Jean Poiret qui avait adapté la pièce. Donc je suis arrivée la cour des grands.
Mais comment vous retrouvez comme ça, propulsée
J'ai passé une audition. Et voilà, je me souviens, j'étais dans j'avais un petit studio, je venais d'arriver à Paris. Et ils m'ont appelé pour dire on vous propose le rôle. J'ai raccroché, j'ai hurlé de joie, mais dans mon petit les murs faisaient ça, tremblaient.
Et pour les convaincre, vous faisiez la rigolote aussi. Vous les avez eus au.
Oui, alors je me souviens que la dame qui recrutait les comédiens, que j'étais habillée en noir, c'est un peu con ce jour-là. C'est pas très gay, on va dire. Et donc je rentre et elle m'a dit, elle avait dû se faire engueuler parce qu'elle avait dû proposer des comédiens qui n'étaient pas drôles. Et je suis rentrée, elle a dit ah non, vous n'êtes pas drôle. Vous n'êtes pas drôle. Là, j'étais un peu embêtée et j'ai dit « Oh, mais vous savez, je fais du café-théâtre et puis Julien Berthaud, mon prof, a envoyé un petit mot, c'était pas vrai, j'ai un peu bluffé, à Jean Poiret, donc il est au courant, il fait « Oh, bon, d'accord. Bah, » Et donc, j'ai passé l'audition, ils m'ont engagée et après, en répétition, ça se passait bien, mais j'avais 10 lignes, hein, mais ça se passait bien. Et à un moment donné, elle m'avait fait venir en me disant « Alors, j'ai pas bien fait de vous faire passer l'audition ?» Et je n'ai rien dit, lâchement. J'ai dit « Oh oui, madame, merci, madame. »
Bravo. François Berléand, à ce moment-là, en 86, vous écoutiez.
Dire Straits. Encore un slow, hein.
Ah bah...
Elle est... Un lover, ce François.
Ouais, mais...
Dire Straits, ouais.
Ah ouais.
Marc Knopfler, qui a un nouvel album là qui sort. Non, non, mais il a sublime guitariste, Marc Knopfler. Et donc là aussi, le théâtre.
Ouais, le théâtre, mais à la mise en scène cette fois-ci, François. Vous mettez en scène William et vous regardez, vous n'en gardez pas une super.
Non, mais ça a été un moment pour moi absolument extraordinaire de mettre en scène une pièce.
Parce que vous aimez diriger les acteurs.
Oui, c'était au Bataclan.
Ouais.
Et il se trouve que déjà, il y avait, enfin, en répétant, on répétait boulevard Raspail, dans le centre américain. Et on répète, tout à coup, on entend des sirènes de flics, de pompiers, des trucs. Enfin, c'était, on ne pouvait plus répéter. Et j'ai dit, bon, on arrête et puis on sort. Et là, on voit, mais c'était couvert de flics, de pompiers, de machin. C'était l'attentat de Tati Rue de Rennes. Ah, oui. Et on était à 100 mètres. Et il se trouve que la première était 15 jours après et qu'on n'a eu personne. Et parce que
personne ne sortait à nouveau.
Ouais, non, personne ne sortait. J'avais deux films qui sortaient où j'avais pour une fois j'avais deux rôles secondaires qui étaient vraiment importants. Il y a eu personne n'est venu et au théâtre vraiment il y avait des fois ils ne jouaient pas parce qu'il y avait personne quoi. Ouais. Et une fois ils ont joué justement les deux pour Alain Cavalier qui est venu. Et il a joué. Enfin, ils ont joué devant lui seul. Et c'était formidable parce que ça se passait dans un théâtre désert. Donc, effectivement, ça marchait. Et lui était emballé, il pleurait. Il dit, écoutez, j'ai passé un moment extraordinaire. Ouais. Et voilà.
Donc, la mise en scène, oui, la direction d'acteur. Mais en revanche, j'ai cru comprendre que la mise en espace, ça, c'est un truc qui...
Oui, je suis pas metteur en scène. Moi, je suis vraiment... J'adore la direction. Je suis un directeur d'acteur parce que je vois bien comment ça marche. Mais par contre, la mise en espace, je ne suis pas trop...
Et quel rapport avec Dire Straits? Alors, pourquoi vous avez choisi cette musique? Est-ce que vous écoutez des musiques en fonction des rôles?
Ça, c'est une fille, ça. C'est une fille que j'ai beaucoup aimée.
D'accord.
Et j'ai bien le droit, non?
Vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits.
Ça s'appelait Petrus? Non, ça n'a rien à voir.
Non, d'ailleurs. Ça s'appelait d'ailleurs.
En 2015-2016, Michel Larocque, vous écoutiez...
Strength, people go home quiet.
Moi, je veux savoir, les musiques que vous écoutez, elles sont en fonction de ce que vous êtes en train de vivre professionnellement ou de l'humeur du jour?
Non, mais Archive, je les écoute depuis 96, non? Mais j'ai jamais cessé de les aimer. Donc, chaque fois qu'il y a un album qui sort, je l'écoute et je le réécoute. Donc, j'aime vraiment, vraiment ce qu'ils font. Mais là, au début, quand je les écoutais en 96 ou 17, c'était une fille qui chantait. Le premier album,
hein.
Et, j'adore sa voix, j'adore leur son. On les reconnaît tout de suite, on sait tout de suite que c'est eux. Enfin, comme les grands artistes.
Vous les aimez toujours et ça tombe bien, 2015-2016, c'est les 20 ans de Il s'aime.
Ah, voilà.
Là encore, une pièce aussi qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup marqué. Pierre Palmade et vous, avec une distribution avec Muriel Robin tournante.
Oui.
Et vous remontez sur scène toujours avec le même plaisir.
Oui, parce que c'était génial de rejouer les premiers qu'on avait joué dans Il s'aime. On avait fait donc un best-of des trois spectacles et de rejouer les premiers. Et puis, franchement, c'est des putains d'auteurs. Quoi. Enfin, ouais. c'est, je veux dire, pour ce genre-là, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ça a touché les gens parce que, sincèrement, les gens nous attendaient souvent à la fin des spectacles en disant « Vous, c'est rien. Moi, ma femme, elle m'a fait ça. » Les gens s'identifiaient complètement. Ceux qui étaient qui se parlaient plus, se redonnaient la main, repartaient bras dessus, bras dessous. Donc, je pense que le talent aussi d'un auteur et d'un acteur, c'est de faire que les gens qui vivent le même genre de situation, qui peuvent le vivre de manière dramatique, se sentent pas seuls tout d'un coup et ont la permission d'en rire.
Et c'est parce que Palmade ne voulait plus monter sur scène tout seul, je crois, qu'il vous a demandé de faire travailler ensemble, de faire un duo.
Exactement, oui. Oui, je jouais Pédale Douce, il avait écrit les dialogues, donc ça c'est pas du tout de l'ego, mais il est rentré en disant « J'aime beaucoup la façon dont tu dis mes dialogues.
» dit-il en se passant la main dans les cheveux.
Il avait de quoi se passer la main dans les cheveux à cette époque. Hein. C'était des grands cheveux.
Ah, c'était des Irlandaises, on l'appelait des Irlandaises en fait. Elle s'appelait Suzanne Wooder, celle qui chantait avec Archive sur quelques titres, pas sur tous les gens. Voilà, je voulais juste le dire pour les fans.
Suzanne, encore une Suzanne.
Quant à François Berléand, vous écoutiez.
Non, je ne veux pas être celle qui s'enfuit au bas.
Toujours du slow.
Non, mais je crois que vous aviez déjà demandé Diving with Andy la dernière fois que vous étiez venu.
Ouais. J'adore. C'est un groupe que je trouve absolument extraordinaire. Ce sont des Français qui chantent en anglais. C'est la seule chanson française qui...
Oui, ils chantent en français. Voilà. Donc, celle qui...
Je trouve qu'elle a une voix absolument extraordinaire. Ah ouais. Et Sugar, parce que c'était leur grand tube, c'est
ça vous transporte.
Ça me transporte.
2016, qu'est-ce qui se passe, Leïla ?
Eh ben, c'est une grosse année 2015-16 hein, en théâtre pour vous, François. Deux hommes tout nus, Momo, Du vent dans les branches de Sassafras, moi et François B. Ramsès II aussi. Dans ces pièces que je viens de citer,
ça te fatigue, attention.
Oui. Oui. Il y a beaucoup de Sébastien Thierry.
Il y a beaucoup de Sébastien Thierry, justement. Que ce soit Deux hommes tout nus, Momo ou Ramsès II. Ouais.
Juste, j'ai une question, mais tu joues combien de temps pour avoir toutes ces pièces dans un an?
Un jour,
en
deux ans. Un jour, il est viré.
Sur deux ans.
Ouais.
C'était sur deux ans.
Donc c'est chaque fois trois mois, quatre mois, ouais.
Et puis il y a la il y avait les tournées. Comme je fais des tournées, c'est pour ça il y avait le.
Ah oui, oui, oui.
Ça se. Et puis, Du vent dans les branches, ça fera. C'était une captation.
D'accord.
Donc,
c'est ça.
Et alors, cette rencontre avec Sébastien Thierry, parce qu'on a parlé de lui récemment pour la pièce 8 euros de l'heure.
Oui.
Avec Valérie Bonneton et Danny Boone. Vous êtes dans ces trois pièces-là, vous êtes une sorte de petite mascotte pour lui, tout d'un coup.
Bah alors, comme Palmade.
Ouais. Pour Michel
a dit à Michel, il aime beaucoup la façon dont je joue ces pièces.
Ouais.
Donc voilà, et puis il se trouve que je suis en osmose totale avec ce qu'il écrit. Donc j'ai pas besoin de me forcer. En général, il me propose des rôles de méchant, de colérique, de mauvaise foi.
Ça s'appelle un documentaire.
C'est tout ce que j'aime.
C'est un documentaire pour vous.
Oui, c'est ça. Non, mais j'ai même pas besoin. Mais c'est incroyable. Et en plus, comme c'est un comédien, il a fait le conservatoire, etc. C'est un dialoguiste absolument exceptionnel. C'est un vrai bonheur de se mettre dans de jouer parce que il y a aucune difficulté dans le. Vous savez, il y a des pièces.
C'est fluide.
C'est dur à mettre en bouche. Là, c'est d'une facilité absolue.
Et la note, là, il est très, très, très. J'adore l'écriture de Fabrice Roger-Lacan.
Voilà. Mais il y a des fois, c'est dur.
Parfois, ça arrive.
Qui a été dans les scénarios. Par Édouard Baird.
Oui, absolument. Ouais.
Saverio Tomasello, merci. Tomasella, pardon, merci d'être avec nous. On parlait des relations fusionnelles au sein du couple. Encore un instant, c'est le cas entre Michel Larocque et François Berléand. Comment définir un couple fusionnel? C'est lorsque, justement, au-delà de la vie ou de la mort, ils continuent de s'aimer?
Oui, un couple fusionnel, ce sont deux personnes qui ont besoin d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de se retrouver, de se parler, de décider ensemble, de vivre ensemble tout le temps.
Non, mais ça peut être la définition de l'amour.
Oui, alors justement, c'est pour ça.
Il y a quoi de plus à l'amour?
L'amour est fusionnel forcément, hein. C'est un état d'osmose, c'est un état de proximité, c'est un état d'intimité, donc l'amour est fusionnel. Dans un couple fusionnel, c'est peut-être poussé à un degré un peu plus fort, et comme le disait tout à l'heure le chroniqueur, dont j'ai oublié le nom,
Tom l'humoriste, le talent, le comédien, l'auteur, s'il vous plaît, pas du tout.
Vous n'avez pas à me relire.
Ça dure longtemps.
Il manque des mots encore.
Non, mais ça veut dire que c'est de l'amour où on n'est rien sans l'autre, c'est-à-dire que sans l'autre, on s'effondre.
Alors ça, c'est à l'extrême, mais parfois on est bien avec l'autre, on s'entend tellement bien qu'on a envie d'être avec l'autre. Ça peut aussi être très très positif, la fusion.
Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, c'est ça. Alors, quels sont les avantages dans la fusion?
On se connaît bien.
Ah oui, c'est court au niveau de l'avantage. C'est moi, il y a plein de gens que je connais bien et je suis pas forcément amoureux.
Oui, non, mais on se connaît bien, on a envie de faire des choses ensemble, on n'a pas forcément besoin de se dire les choses pour se comprendre.
Alors, on n'a pas besoin des autres.
Inconvénient du couple fusionnel.
Alors voilà, l'inconvénient, c'est la dépendance, c'est la codépendance, c'est finir par ne former qu'un monde à soi seul. Enfin,
mais est-ce que c'est pas la négation de sa personnalité, de son caractère?
Alors, c'est le grand risque. Le grand risque, c'est de ne plus exister seul et de ne plus savoir comment faire, comment penser, comment vivre sans l'autre.
Est-ce que cette fusion s'exprime aussi bien d'un point de vue physique que mental et vis-à-vis des enfants et des amis? Est-ce que ça ne devient pas casse-pied? Oui, c'est ça.
Alors,
je sais pas quel mot
employer. Il y a des fusions qui vont être que physiques, sexuelles ou dans la tendresse. D'autres qui sont effectivement beaucoup plus mentales et dans la discussion. Et puis, il y a des couples qui sont fusionnels dans tous les domaines. Il y a des parents fusionnels qui sont très fusionnels avec leurs enfants, donc c'est la famille qui va devenir fusionnelle, mais je connais aussi des patients et des patientes qui ont eu des parents fusionnels qui les ont exclus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour les enfants dans ces couples-là.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, rester un tout petit peu chacun à sa place, jouer le rôle de parent jusqu'au bout et ne pas étouffer l'enfant en étant fusionnel, y compris avec lui. Enfin, je n'y arrive pas, on ne peut pas ne pas faire naître des sentiments oedipiens et autres, non ?
Ça dépend des parents. Il y a des parents qui sont très fusionnels et les enfants peuvent aussi aimer ça jusqu'à l'adolescence, en tout cas jusqu'au moment où ils ont besoin de se libérer.
Est-ce qu'il faut soigner l'amour fusionnel ?
Non, c'est pas une maladie du tout. C'est une caractéristique. Il y a des personnes qui adorent être fusionnelles, d'autres pas. On n'est pas.
Vous avez quand même remarqué qu'il y avait plus de défauts que d'avantages. Vous aviez du mal à expliquer des avantages.
Non, mais ça c'est moi qui ai bugué. Mais je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit le problème de la fusion.
Mais il faut. Mais allongez-vous, nous allons parler.
Et ça peut durer toute une vie.
Ça Verio, ça peut pas. Oui.
Ça peut durer toute une vie.
Oui, oui, parce que c'est une nature. C'est un tempérament, donc alors, ça peut durer toute une vie.
Ça veut bien dire, comme dans la pièce, que lorsqu'il y a une séparation obligatoire comme la mort, ça met celui qui reste dans une situation délicate.
Oui, c'est extrêmement douloureux, c'est terrible. On a l'impression qu'on ne peut plus vivre, qu'on ne peut plus respirer, manger, dormir, on ne peut plus rien faire.
Et donc on ne peut pas faire son deuil.
Alors, soit le deuil va être très long, mais va être possible, et on va réussir petit à petit à se dégager de cette... très très forte relation, soit il y a des deuils qui sont difficiles, voire impossibles en amour, hein, ça existe.
Donc on n'encourage pas l'amour fusionnel. Moi, de ce que j'entends, là, j'ai plus du tout envie de fusion.
On se décide pas en même temps.
Non, mais alors c'est que je me suis mal exprimé parce qu'il y a des gens qui sont.
Ah, vous faites peur, Saverio.
Mais quoi, oui, vrai, c'est ça le problème. Alors non, il y a des personnes qui sont très très heureuses en étant fusionnelles et d'autres pas. Il n'y a pas ni à encourager ni à décourager.
On peut pas retomber amoureux, quoi, du coup après.
Si on est fusionnel. Une fois que le deuil est réalisé, si. Et puis parfois, on a des surprises, on peut redevenir fusionnel avec quelqu'un d'autre.
Ah oui, d'accord, c'est un état dans lequel...
C'est peut-être des fois un besoin aussi.
Aussi,
il y a des gens
oui,
qui ont besoin d'être fusionnel. Oui.
Merci Saverio, Thomas Hélan, d'avoir été notre invité ce matin. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
La France est en marche.
Oui, Macron a bien réussi son truc parce que tout le monde marche. Les gilets jaunes chaque samedi, mais hier, les foulards rouges ont défilé. Même notre actu social, ça ressemble à la Fashion Week. Il y avait aussi des marches pour le climat. Bref, au rayon rando de chez Decathlon, ils sont comme des ouf.
On en parle après les infos de midi. Merci de nous rejoindre sur Inter avec Leïla Kadoumoudadi, Daniel Morand,
bonjour Leïla.
Tom Villa, Tanguy Pastureau, Jérémy Crédville et nos invités Michel Larocque et François Berléand. Nous parlons d'une pièce de théâtre qui démarra dès demain. Ça se passe au théâtre Édouard VII, très beau théâtre, où Bernard Murat, qui n'en a plus la direction, mais qui fait la mise en scène quand même, faut appeler un chat un chat, travaille avec vous, Lionel Abelansky et Vinnie Dargaud. Vous êtes quatre en scène avec l'amour d'un couple. On parlait tout à l'heure d'amour fusionnel, l'amour d'un couple interprété par Michel Larocque et François Berléand. François Berléand étant un auteur, réalisateur, enfin metteur en scène, réalisateur.
Exactement.
Décédé suite à un accident de voiture, mais toujours présent dans l'esprit. En tout cas, c'est elle qui continue de le faire vivre, de dialoguer avec lui. Elle va franchir le pas en jouant une pièce proposée par Max, interprétée par Lionel Abelansky. C'est la première fois qu'elle va jouer une pièce sans son mari. Elle veut son approbation, elle veut son accord. Et pourtant, le mari, lui, il est un peu jaloux quand même aussi de Max. Hein
non.
Oh, bah, il l'aime pas beaucoup.
Non, pas du tout.
Il l'aime pas.
Non.
Il est jaloux. Moi, il était jaloux.
Je suis jaloux, mais je fais semblant.
C'est un jeu.
C'est l'image qu'elle a de moi. Elle se dit, il va être jaloux.
Mais et c'est pas vrai. C'est ridicule nouvelle. Avec son écharpe autour du cou en permanence.
Il est 12h07.
Et alors?
Non, mais c'est pour.
Non, mais faut qu'il.
Vous voulez un peu de pain?
C'est pour les auditeurs.
Quel rapport avec l'heure? Vous n'aimez pas qu'il se balade avec son écharpe autour du cou?
Non, j'aime pas qu'il se balade avec son écharpe.
Il se moque de lui tout le temps.
Ouais, je me moque de lui parce que, voilà, c'est quelqu'un qui. Que je trouve désagréable.
Et puis potentiellement, il représente ce que vous étiez vous, c'est-à-dire celui qui va créer un rôle pour sa femme, qui va potentiellement la mettre en scène et donc lui permettre de, cette fois-ci, créer un personnage, puisqu'elle vous crée, vous, au quotidien, mais créer aussi maintenant un personnage rien que pour elle.
Oui, sauf que lui est auteur.
Oui.
Moi, je suis... Enfin, dans la pièce, j'étais réalisateur et metteur en scène. Mais en fin de compte, c'est un couple fusionnel.
Mais c'est des rapports homme-femme quand même.
C'est fini, oui. Incroyable. Je sais même plus ce que je voulais dire.
C'est ce qu'il voulait faire en plus.
Il est 12h08.
Sauf qu'il est auteur.
Je sais plus, moi, je sais plus.
Vous dites sauf que
lui, il est auteur.
On est aussi un couple professionnel. Et ça, c'est important. Parce que dans notre métier, C'est vrai que c'est assez rare, des metteurs en scène avec des comédiennes. Enfin, il y en a quelques-uns, mais oui. Justement, c'est quand c'est ça, justement, là, c'est fusionnel parce que tout à coup, on dépend vraiment beaucoup l'un de l'autre. C'est
et
ça
je que pense que quand on s'est rencontrés, lui est tombé amoureux aussi du potentiel qu'elle pouvait avoir sur scène ou sur un plateau de cinéma. Voilà, notre amour est lié à l'amour du public.
Ouais,
et il est aussi voilà, mon Pygmalion, c'est certain.
Quelle heure est-il, François?
12h09.
Merci, François Berger. Voici donc ton occupation. Tanguy, hier tout le monde marchait.
Oui, notre pays n'est plus qu'un vaste GR. On avait déjà les gilets jaunes qui défilent chaque samedi. 4 manifestants plus un chien selon le ministère de l'Intérieur. 2 millions selon Éric Drouet. 7 millions selon les complotistes sur Internet qui pensent que de toute façon les chiffres ont été créés au 9e siècle juste pour que Castaner aujourd'hui puisse les manipuler dans son sens. D'ailleurs, disent-ils, si on ajoute 657 au 9 de 9e siècle, on obtient 666. Chiffre de la bête, le diable, dont le symbole est l'étoile à 5 branches, soit une de moins que celle de David. Ce qui prouve que le monde est contrôlé par le groupe Nakash, qui a fait un hit avant de disparaître, comme par hasard. Et hier, on défilait en réaction aux gilets jaunes, les foulards rouges. À venir, il reste les slips verts et les soupules bleues. On s'est souvent foutu de la gueule d'Eddie Mitchell parce qu'il croune comme Sinatra, même quand il est en live à Dijon. N'empêche que dès 59, il a lancé les chaussettes noires. Il tenait un truc sans le savoir. Alors à noter qu'il y a aussi le mouvement des écharpes rouges, qui ne comprend qu'un membre, Christophe Barbier. Les autres ont vu Barbier et se sont dit on n'a pas envie de ça. L'été il fait 40, on sue de la nuque. En septembre son cou est tellement fin qu'il peut même plus supporter sa tête. Une seule fois il regarde une mouette dans le ciel, il reste coincé en arrière, merci. Bref, les foulards rouges ce sont des pro-Macron qui en ont marre de la chienlit. À chaque fois qu'un radar est vandalisé, ils se réveillent en transe et disent à leur conjoint bébé ça me pique dans le dos. Et donc hier à Paris ils ont fait Nation Bastille, tel des cégétistes mais sans la bidoche. Puisque la merguez est un aliment de gauche. La preuve, à la fête de l'humain, il y a des merguez, mais pas aux soirées du Ku Klux Klan. Ces cons brûlent des croix, mais ne font rien cuire sur les braises. Alors les chaînes info hier sont donc dit, yes, génial, le samedi, ça latte avec les jaunes. Et en plus, maintenant, les rouges vont tout défoncer. On va faire une PDA de 3,8 sur les 4 ans et plus. C'est un record en ménagère. Mais déception, les foulards rouges, ils sont mous. À côté, François Langlais, qui analyse en chuchotant la courbe de l'inflation en Pologne, c'est un concert de Rammstein. À Nation, ils ont chanté la Marseillaise. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'histoire de paysans super énervés, genre François Bayrou ou LSD, qui veulent remplacer dans leur sillon le glyphosate par le sang de leurs ennemis, lesquels ont fait un bilan sanguin et c'était pas top. Leur sang est impur. Hein, c'est ça de bouffer des saloperies. Donc les foulards rouges chantent, puis ils scandent des slogans comme stop aux violences. C'est vrai que ça fait 10 semaines que ça tape. Hein. Moi, je regarde plus que les mystères de l'amour, le moins violent que j'ai trouvé à la télé. Et encore, Hélène a clashé Nicolas parce qu'il s'est rapproché de Bénédicte. 15h06, tension, le journaliste du Monde, Alexandre Lemarié, qui suit les foulards rouges, rapporte qu'une dame crie « Macron, démission !» La phrase qu'on entend le plus en ce moment, avec « purée, j'en peux plus de l'hiver, mais enfin on va vers le beau, chaque jour on gagne 2 minutes de soleil. » Là, dit Lemarié, une femme âgée sort du cortège, lui met une claque. Donc BFM se dit « jurisprudence, Boubacaris, elles vont se foutre sur la face. » Mais rien. C'est-à-dire que les dames se calment, limite s'excusent. C'est à ça que ressemble une manif au Tibet entre des bonstailles issues de temples concurrents. Pas d'image diffusable, que dalle.
Donc les foulards rouges se proclament un mouvement pacifiste.
Mais oui, ah bah ça se voit, c'est le seul défilé à avoir traversé la rue sur le passage piéton. Les anti-IVG, eux, ils mettent le boxon, ils marchent au milieu de l'avenue Foch en faisant tourner leur sac Longchamp au-dessus de la tête. Il se passe quelque chose, mais là, rien. Les foulards rouges se sont séparés dans le calme. Ils n'ont pas pété un seul parc-mètre. Pire, ils ont installé un parc-mètre. Mais en plus, toujours hier, alors il y avait les marches pour le climat. Tout le monde marche hein, en France. À la Fédération Française de Rando, les mecs sont tellement excités qu'ils lèchent des sur la fumée en poussant des cris. Là, ce sont des écolos qui pensent qu'il n'est pas trop tard pour sauver l'humanité. Alors que si, hein, c'est pas pour rien que France 2 diffuse 4 soirées Eurovision au lieu d'une étalée sur 5 mois. Ils ont appelé Météo France qui leur a dit c'est foutu, en août il fera 72 à Mâcon. On prévoit que seul Barnabé, le scorpion du vivarium, femme du coin sera en mesure de survivre. Aucune civilisation qui croit en son avenir ne célèbre l'Eurovision de janvier à mai. Tout le monde marche, d'autant que les gilets jaunes continuent à marcher. Enfin, ils boitent, hein, parce qu'ils s'en prennent plein la tronche. Hein, Castaner, je pense qu'il se fait coacher en FaceTime par Chuck Norris depuis le Texas. Ça tire dans tous les sens. Même des types en train de filmer ou de regarder s'en prennent dans l'œil. Enfin, Casta, c'est l'antithèse d'Alain Flelou. Ils vont devoir créer une offre chin, c'est-à-dire le chin-chin des borgnes. Et le souci, c'est que tant que chaque samedi, on aura à la télé des images de gens qui ont perdu un membre, Macron pourra passer sa vie à discuter pendant 6 heures avec des gilets jaunes, il aura la vie d'un escargot sur la vide de la cuisine. Il gaspillera sa salive pour rien. Et alors, s'il y a un mort, les routes nationales, c'est pas à 90, c'est à 220 km/h qu'il faudra les repasser pour calmer le jeu. Benzema va kiffer, il pourra faire Paris-Chartres en 7 minutes. Ces tirs au flashball, les grenades de désencerclement, là, je sais pas vous, mais moi ça me fait peur. Je suis déjà pas bien quand au tennis, mon oncle fait son service un peu trop sur moi, alors... Bref, foulard rouge, écolo jaune, écolo vert, gilet jaune, tous sont en marche, c'est leur point commun. Avec Macron, on n'arrête pas de marcher. L'avantage, si on va dans le mur, c'est que ça fait moins mal que si on court.
Merci, Tanguy Vachon. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Encore un instant, ce titre ayant un double sens, évidemment, à la fois le rôle qu'on vous propose, que Max, joué par Lionel Belansky, vous propose, où il y a cette phrase historique
de la comtesse du Barry,
au moment d'être tué par son bourreau, voilà,
encore
d'être
guillotiné. Encore un instant, monsieur le bourreau.
Et encore un instant, comme si vous prolongiez justement la présence de votre mari qui n'est plus là, alors qu'il vous a accompagné pendant 30 ans.
Exactement. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui ont été dans des coupes fusionnelles.
Arrête de dire l'heure, François. Je te jure, la prochaine fois que tu dis l'heure,
c'est 12h15.
Non, non,
non, pardon,
c'est tout,
bien
voilà.
Sûr. Voilà. Voilà. Arrête, non, mais je suis désolée, j'avais pas vu l'heure. Et donc, et qui ont vécu 30 ans de bonheur absolu. Ouais. Et je crois que quand justement il y a un décès, c'est cher payé. Ouais. Voilà. C'est difficile. Ils se sentent très dépendants de l'autre, et c'est merveilleux d'avoir vécu ça, et je crois que c'est très 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 dur de...
Oui, c'est une forme d'abandon.
François Berléan, au-delà du plaisir d'être avec Michel Larocque, quelle est la raison pour laquelle vous ayez accepté cette pièce, qui vous a plu dans ce rôle? Puisque tout à l'heure vous disiez qu'il y avait des rôles presque écrits sur mesure, caractères.
Le fait que ce soit un fantôme, déjà, c'est je crois que
c'est rare.
C'est rare
de jouer un fantôme.
Théâtre. Et je crois bien que c'est la première pièce où il y a un fantôme, je crois.
Mais vous vous retrouvez toujours dans des pièces comme ça où il y a un peu de surnaturel qui apparaît. Oui, on a parlé des pièces de Sébastien Thierry, qui est c'est un peu sa marque de fabrique aussi.
Ramsès II. On ne sait plus où était la réalité.
Voilà, la réalité, elle est là. Oui. On ne se pose pas de questions. Dès qu'on a compris que. Et puis alors, en plus, maintenant, tout le monde va le savoir que je suis mort. Je n'existe pas. Donc,
Ah non, mais pardon, on n'a rien gâché.
Non, non, mais bien sûr. Non, justement, non, parce qu'on se demandait s'il fallait le dire, pas le dire.
C'est impossible de parler de la pièce.
Sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. Non mais c'est vrai, donc moi ce qui m'a plu, c'est évidemment le cynisme du personnage, et puis le fait de tirer les ficelles un peu comiques. Voilà, donc moi j'adore faire rire, je suis comme Michel, on est pareil.
Sauf que c'est vrai que c'est vous qui décidez de l'humeur de la pièce, c'est vous qui décidez si c'est le moment drôle ou si c'est le moment dramatique.
Non, Michel aussi elle fait rire, Lionel aussi fait rire, tout le monde fait rire, mais disons que les ficelles que j'ai, moi, sont plus.
C'est-à-dire que c'est très croustillant quand tu n'es pas entendu par l'autre personnage et que tu peux dire des horreurs sur lui. Tu vois, on rêve tous, c'est des pensées qu'on a tous.
Surtout quand c'est Lionel à Belansky, c'est encore plus agréable.
Voilà, être à un centimètre de lui et lui faire des kékékés, parce qu'il a une écharpe rouge aussi, lui.
C'est la faute de l'écharpe rouge. Il va défiler.
Ouais,
Il va défiler.
Et puis le plaisir de jouer vraiment avec Michel et de rejouer aussi avec Lionel, avec qui j'avais joué dans du vent dans les branches de Sassafras. C'est deux comédiens que j'adore et c'est un vrai plaisir de
une dernière chose, François?
Eh bien, écoutez, il est 12h17:36.
Voici Daniel Moreau.
C'est pratique, hein?
Ouais, formidable, merci.
C'est utile.
Quel week-end tendu, quelle atmosphère de merde, hein, disons-le clairement. Michel Legrand qui est mort, désespoir, rappelez-vous.
Nous sommes de ça.
Oh, c'est bon ça quand même. Hein. C'est bon, mais n'oublions pas non plus... le cake d'amour, quelle idée de génie. Alors, soyons précis, soyons honnêtes, j'ai tenté la recette plusieurs fois du cake d'amour. Ça ne marche pas.
Bah non.
Puisqu'on parle gâteau, comment ne pas évoquer avec les larmes aux yeux, là aussi, la disparition d'un homme qui pendant 8 ans a mangé, pas du cake d'amour, mais du gloubi boulga. Et François, l'ami de Casimir dans L'île aux enfants, parti lui aussi. Quelle tristesse. Ah, L'île aux enfants, probablement les premiers émois sentimentaux, voire physiques, de plusieurs générations de gamins qui bourgeonnaient et qui la nuit rêvaient de corps à corps sulfureux avec François, justement, ou bien avec Mademoiselle Julie. Ou encore avec Casimir. Autre triste nouvelle funèbre, c'est fait, c'est officiel. Le pied droit de Neymar est mort. Le pauvre Brésilien s'est encore fait tambouriner le petit orteil. Pas facile, la vie d'un Neymar sur un terrain de foot. Neymar sur un terrain, c'est la magie brésilienne entrecoupée par la frustration des défenseurs qui n'en peuvent plus de le voir virevolter. Le problème, c'est que souvent, on reproche à Neymar d'être un chambreur et de faire du cinéma, tout le temps rajouté, et souvent pour pas grand-chose. En gros, c'est ça. Et Neymar qui accélère, Neymar qui passe un joueur et qui... Neymar... Ah, faute sur le Brésilien, à mon avis, il s'est un peu laissé tomber. J'aimerais voir le ralenti. Neymar en contre, il accélère, il reste deux défenseurs. Que va-t-il faire ? Faute sur le numéro 10 du PSG, une faute pas évidente. Hein. Il se tord de douleur. Est-ce qu'il en rajoute ou pas ? On n'en sait rien. En tout cas, c'est bien le genre du bonhomme. Neymar dans le rond central, il contrôle le ballon, fin de corps, petit pont, il passe et attends. Oh, l'arbitre siffle encore en faveur du Brésilien. Parfois, on a l'impression qu'il est très influençable, cet arbitre. Attention, Neymar qui part en dribble. Il élimine un joueur, deux joueurs, un troisième, passement de jambes, roulette, sombrero, élastico. Neymar qui rentre dans la surface de réparation. Neymar. Ah ouais, on le sentait arriver. Neymar sort sur blessure. Espérons que les jardiniers pourront retrouver son orteil avant le match aller contre Manchester. Oh, c'est beau avoir joué le Sud-Américain, le problème, c'est que c'est fragile. Comme je vous le disais, un week-end très riche en très très mauvaises nouvelles. À demain.
C'est vrai.
Merci, Léon. France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Vous avez suivi l'actualité sportive, Michel Larocque, on parlait tout à l'heure de tennis.
Oui, Djoko.
Oui.
Incroyable, hein.
Donc vous êtes toujours à fond sur le tennis en tout cas, c'est votre sport
fétiche. J'aime tous les sports, vraiment, mais le tennis évidemment, c'est le truc de mon enfance, mais on a des champions fabuleux quand même, enfin Federer.
En ce moment,
dément,
Nadal.
Nadal, ouais. Ouais, mais là...
Mais là il a perdu face à Djoko.
Ouais, ouais, et puis vraiment
qui
bien perdu.
Qui te fait ça quand même, hein.
Ouais.
Oh là, non, mais laisse parler Michel.
Tu non, pourquoi?
Parce que Daniel Morin se mêle de tout.
Petite fessée. Ah ouais, il a bien perdu, hein. C'est étonnant d'ailleurs, non? Enfin, Djoko était énorme. Mais lui aussi, à un moment donné, quand même, il avait vraiment baissé.
Il était redescendu, ouais, pareil.
Non, mais c'est pour ça, c'est ça, les vrais champions.
Et surtout, on a notre père française qui rentre dans l'histoire.
Incroyable, ils sont incroyables. Herbert et Manu. Non, mais vraiment, ils rentrent dans l'histoire. Et puis, de manière simple, légère.
Double.
Il est 12h21. Et donc, c'est vrai que on voit deux copains qui se comportent super bien et qui battent les meilleurs et qui rentrent dans l'histoire des plus grandes équipes de double. Enfin, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, Herbert, on m'a dit que son père était à Nice, il faisait tennis études quand j'étais petite.
Encore, mais décidément, vous avez une influence sur le tennis mondial.
Le père, hein.
Incroyable. Oui, pardon. Il y a un moment.
J'ai une influence, oui, exactement.
Quand même.
J'ai un peu pris cette victoire.
Un peu pour vous. François Berléand. Toujours,
tennis,
l'alcool, vous donc
ouais. Non, pas hier, justement, c'était hier, voilà, c'est tout, c'était
oui,
hier.
Mais
non,
ça compte plus.
Ça compte pas.
Nous recevrons jeudi votre camarade de beuverie, Pierre Arditi.
Ah oui. Bon poivron aussi, celui-là.
On va garder cet extrait.
Non, c'est pas vrai.
Merci.
C'est pas vrai.
Non, non, mais il paraît qu'il nous a dit que c'était avec vous qu'il préférait déguster parce que vous étiez un connaisseur.
On connaît, voilà.
Ouais, de vin.
Quand on a des belles bouteilles, c'est très embêtant de boire avec des gens qui.
Qui s'en foutent.
Des amateurs. Mmh. Ouais,
ouais, alors quoi. Et puis, il n'y a pas un autre là. Et puis, ils ne goûtent pas, ils ne savent pas. C'est terrible ça.
Alors que Pierre Arditi.
Pierre Arditi, François-Xavier de Maison sont des gens qui sont très connaisseurs du vin et c'est un vrai plaisir de les inviter à dîner.
Et comme vous, c'est-à-dire vous partagez cette.
C'est un partage. Le vin, c'est un partage. Voilà. Et d'ailleurs, j'offre du vin aux premières et je donne quelques conseils de dégustation.
Mmh. Et on commence en retard parce que.
Alors, tu vois, ça. Je ne bois jamais avant de jouer.
Qu'est-ce qu'on dit à Pierre Arditi alors jeudi quand il va arriver de votre part comme message?
Bonjour.
Oui, merci. Oui,
ça, il est 12h23.
Non, mais non, arrêtez. Rien de plus, alors.
Non, ben...
parce que vous êtes chacun en train de démarrer une pièce de votre côté.
Voilà,
vous
dites, oui, tu me manques. Voilà, oui, tu me manques. Voilà. Tu me manques.
Mais viens avec une bouteille.
Ouais.
Parmi les projets, vous serez, Michel Larocque, à l'affiche de Promis de la classe, un film de Stéphane Benlassen, et également de Poivre et Sel. Alors parlons déjà de...
Non, c'est les Chicouf.
Ça a changé.
Ah, ça a changé, d'accord. Ouais. C'est le fameux Chicouf dont vous parliez avec Jérémy Crédville. D'accord. Oui, il y a également Thierry Lhermitte.
Oui, Thierry Lhermitte et...
Jérémy Crédville.
Bonjour. Exactement, et Jérémy...
Tu fais quoi, Jérémy, dans le film?
Je joue le fils... De Michel.
Mon fils.
C'est Crédible.
Elle m'a eu très jeune.
Oui.
Ah oui.
Et Nicole Ferroni aussi joue dans le film. Et voilà. Et je crois que ça va être une très bonne comédie.
Les Chicouf.
Fabrice. Chic, ils arrivent. Ouf, ils sont.
Ah, Chicouf. Ah oui, Chicouf.
Oui, oui, tu sais. Pardon.
Ça aurait pu être le nom du chien.
Et c'est Fabrice Braque qui a réalisé le film. C'est un premier long métrage.
Vous venez de réaliser, vous, un long métrage aussi?
Je viens de réaliser un long métrage.
Il y a un an et demi.
Vous allez. Je vais.
Ah, d'accord. Je croyais que c'était fini le tournage.
Non, mais j'aurais bien aimé parce que comme
chacun chez soi.
Chacun chez soi.
Ah, je croyais que c'était fait et qu'on attendait la sortie. Pardon.
Non,
c'est l'inverse.
Bientôt. Ça, c'était un film qu'on m'a de commande. Donc, c'est très agréable parce que.
C'est classe, ouais.
C'est classe. Et puis en plus, c'est moins stressant.
Et vous jouez quand même dedans ou vous n'êtes que réalisatrice?
Un peu, oui. Un peu. Mais j'en ai déjà un en préparation qui s'appelle Le Petit Roi du Monde, d'après un livre de Philippe Amar, que je vais réaliser et je ne jouerai pas dedans. Voilà, je vous dis tout. Alors après, j'en ai un autre.
Non, mais est-ce que c'est le summum quand on est actrice, que l'on a écrit un film, que l'on a réalisé parce qu'on voulait mener à bout un projet que l'on portait? Est-ce que c'est le summum de devenir réalisatrice d'un projet que l'on vous apporte et de n'être que réalisatrice?
C'est une espèce de reconnaissance du travail de réalisatrice. Ça veut dire, ça prouve qu'il y a eu un travail de bien fait et puis un vrai succès. On a fait une tournée avec Studio Canal assez fabuleuse et donc ils avaient envie de recommencer avec moi, donc c'est très agréable, surtout que je les ai beaucoup aimés, parce que c'est vrai que ça se passe, c'est marrant les tournées, mais il faut que ça se passe bien, sinon... Et donc, voilà, c'est comme au théâtre, on a envie ou pas de retrouver ses partenaires, de sorte. Donc là, voilà, c'est très agréable de savoir qu'ils ont envie de renouveler ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices potentielles, donc je suis très flattée.
Et avec tous ces projets, aucun rôle pour François Berléand?
Non.
Si, bien sûr que j'en ai un.
Rien.
Mais je n'en ai pas parlé encore.
L'esprit de famille d'Éric Bénard. Alors là, c'est vous qui allez jouer aux côtés de Josiane Balasco et Guillaume de Tonquédec.
Ça, c'est fait. Ah oui, d'accord.
Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait.
Et quel est votre personnage?
Un fantôme, ce que j'ai dit tout à l'heure.
Ne parle pas comme ça, Nagui, s'il te plaît.
Oui, non, mais.
Merci, Michel.
Écoute pas.
S'il te plaît. Je n'aime pas le ton.
C'était ce film.
C'était ce film-là, voilà. C'est ce film-là. Josiane Balasco, Guillaume de Tonquédec.
Et deux mois.
Jérémy Lopez, formidable.
Et deux mois, mais MOI, le film de Clapiche.
Voilà, absolument, où je joue un psychanalyste. Mais c'est une participation. Hein, c'est
aux côtés d'Anna Girardot.
Voilà, d'accord. Anna Girardot.
Et vous jouerez dans La Vérité si je mens le...
Et c'est fait aussi.
Ah aussi.
Voilà, c'est l'après-quel, hein, c'est-à-dire que c'est avant le premier.
D'accord.
Donc ça se passe dans les années 70. Et je suis un des grands patrons du Sentier. Mais c'est aussi une participation.
T'as un peu d'accent ou pas?
Non, je prends pas l'accent.
Je prends pas l'accent.
Et puis voilà.
Et l'envie de réaliser, alors, puisque Michel nous parlait de son plaisir d'être réalisatrice.
C'est trop paresseux, je crois.
C'est vrai? Ouais, grosso modo. Non, c'est pas ça. Ouais, j'aime diriger, mais voilà, encore une fois, je mettrai ma caméra.
Prenez un technicien pour vous aider. Prenez quelqu'un qui fasse que la technique.
Mais il travaille tellement, tu sais. Voilà, ça prend beaucoup de temps quand tu réalises.
Je ne ferai qu'un film. Je n'analyserai qu'un film. C'est le livre que j'ai écrit, Le Fils de ma visible. S'il y en a un, c'est ça. Parce que là, au moins, je saurai de quoi je parle. Voilà. Et j'ai toutes les images dans ma tête. Mais sinon,
on le rappelle qu'il est un livre autobiographique. Voilà, donc, si vous le faites, au moins, vous saurez.
Voilà.
Ce que
vous voulez voir.
Absolument. Et ce que je sais quels acteurs je prendrais, peut-être même Michel serait
pour ça qu'il faut qu'il le fasse absolument.
Assez vite.
Et est-ce qu'il y a des rôles que vous aimeriez jouer qu'on vous a jamais proposé? Parce que justement, on a le réflexe de se dire, ok, il est un peu bougon, il est un peu râleur, donc on va prendre Berléand. Et on pourrait sortir un tout petit peu de cette catégorie.
J'aurais aimé jouer Bénure.
Ah. mais il a raison, c'est génial.
Bénure.
Ah ouais.
C'est le fouet.
Le fouet. Bénure, ou alors je sais pas.
Vous savez qu'il est torse nu et huilé un peu.
Oui, mais justement.
Ah oui.
Je ferai de la gymnastique. Ou Zorro. Voilà, Zorro.
Ah oui.
Vous pouvez faire Oncle Bénure.
Là, oncle Benny.
Et vous, Michel, y a-t-il des rôles que l'on vous a pas proposés, que vous aimeriez faire? Un genre?
Non, je me suis jamais posé la question, non. Et là, je sens que je vais pas trouver. Donc, il faut.
Même dans des rôles classiques, même, enfin, je veux là, interpréter. Je sais pas, jouer du Molière, du Goldoni, aller dans des répertoires.
En fait, je crois que ce qui compte plus pour moi, c'est le metteur en scène. C'est la rencontre avec le metteur en scène qui va transformer un scénario, une pièce qui a fait ses preuves évidemment s'il s'agit de Marivaux, Goldoni, etc. Ouais. Mais qui va m'emmener dans son univers et sa vision des choses, et c'est ça qui me plaît énormément.
Donc jouer, on revient au partage, comme on dit tout à l'heure, ça dépend aussi avec qui.
Oui, c'est vraiment, il se passe quelque chose de très 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 spécial avec un metteur en scène.
Et à l'inverse, il y a des projets que vous pouvez refuser.
Parce que
vous n'aimez pas la personne.
Ah oui. Mais oui, parce qu'on va pas s'entendre. Ouais, par exemple, les drames, je ne peux les jouer qu'avec quelqu'un qui a beaucoup de pudeur, qui a pas envie de dramatiser. Donc, quand je sens que le réalisateur a envie de mettre une musique qui va vraiment appuyer sur la situation, etc., ben, je me sens mal à l'aise et je préfère ne pas le faire.
Encore un instant, au moins ça prouve que vous aviez envie de travailler avec cette équipe, avec François Berléand, Lionel Abelansky, Vini, c'est un garçon.
Vini Dargaud. Il s'appelle Kevin, hein. Tant pis,
Grosse info. Je sais pas pourquoi, et il préfère Vini.
Parce que c'est un monde scène.
Personnellement,
respectons-le.
Non, on le respecte.
Et donc Michel Larocque, tout ça mis en scène par Bernard Murat. La pièce est signée Fabrice Roger Lacan. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé déjà pour Madame Federer qui ce matin a découvert qu'elle allait se faire piquer son mec par une parachutiste alcoolique qui a échangé des balles avec Yannick Noah et qui a une hanche en Kevlar. Sacré Michel. Désolé pour les comédiens qui joueront la prochaine pièce du théâtre Édouard VII et qui découvriront le désormais mythique et entièrement carrelé espace Berléand. Regardez les gars où vous mettez les pieds. Désolé pour nos auditeurs qui ont préféré, finalement, la très très longue analyse transport public et aménagement de François Berléand sur la RATP à son anecdote très longue sur le tournage du film d'Alain Cavalier et l'ascenseur en panne. Franchement, moi, mon cœur balance.
Merci Daniel, merci tout le monde. Merci Leïla, merci Tom, merci Jérémy, merci Michel Larocque, merci François Berléand.
Merci Nagui.
Demain, c'est Philippe Besson qui est notre invité pour parler de son nouveau roman, Un certain Paul Darrigan. Portez-vous bien et merde pour demain soir au théâtre Édouard VII. Encore un instant, bonne journée. C'est Philippe Bertrand que vous retrouvez pour les carnets cantines. Il est l'heure, Philippe.
Oui, merci Nagui, bravo. Hein. Eh, bravo, parce qu'il n'est pas facile à manœuvrer.
Il est insupportable, Berléand,
Oh, le caractère, la vache.
Heureusement qu'il est parti.
Attendez, une seconde, toute petite seconde, deux secondes, 12h31.
Ouais, bon,
bravo, merci.